Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
L'une d'elles dit: Ô mon père, engage-le. Certes, le meilleur de ceux que tu as engagés, c'est celui-ci, le fort et le digne de confiance. Il dit : Je voudrais te marier à l'une de mes filles que voici, à la condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. C'est conclu entre toi et moi. Dit Moussa, quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Sourate Al-Qasas, ayah 26 à 28. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. Et là, je te demande vraiment sincèrement, comme d'habitude, hein, mais j'espère vraiment que tu vas bien. Parce que je te préviens tout de suite, dès le départ, que cet épisode-ci concerne un de mes passages préférés. Pas de mes passages préférés de la sourate seulement, du Qur'an tout entier. J'aime tous les passages de mon Qur'an. Je ne vais pas dire lequel est mon préféré, parce que ça, je préfère le garder pour moi. Mais sache que celui-ci, c'est parmi mes préférés. Vraiment, il est dans mon top des passages du Qur'an. Est-ce que cette information est importante pour toi? Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est bien que tu sois prévenu au cas où tu te dis « Zainab, elle prend parti hein, pour Moussa ici, elle prend parti pour cette femme. Je prends parti pour tous les bons protagonistes de ce passage. En fait, je prends parti pour tous ceux qui sont mentionnés dans ce passage-là, tellement c'est un des plus beaux passages de notre Coran. » Belle écoute. Donc on débute avec la Ayah 26, où on a la conversation d'une des femmes avec son père. Et remarque bien, parce qu'en fait, il y a tellement de scènes qu'il faut sous-entendre, en fait, qu'il faut imaginer, comprendre, qui se sont dit, en fait, qu'en fait, on peut oublier de réaliser que cette ayah-là, c'est finalement le seul bout de conversation qu'Allah nous donne entre cette fille, donc que cette fille-là, que cette femme-là, pardon, et son père. Donc ce n'est pas la conversation des deux femmes avec leur père, c'est la conversation de cette femme-là avec son père. On n'a pas la scène où elles reviennent du puits et où elles racontent à leur père qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elles sont revenues plus tôt, etc. On n'a pas non plus la discussion de quand elles ont décrit comment ça s'est passé, quand elle est partie chercher Moussa alayhi salam, l'une d'elles, et jusqu'à ce qu'ils arrivent là. On n'a que cette partie-là de la conversation. Encore une fois, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de mettre en lumière une seule information, par exemple, dans un tas d'informations, c'est qu'il veut que toute notre concentration soit sur celle-là. C'est-à-dire que cette partie-là qu'il nous partage est censée être suffisante, est censée être complète. Et c'est exactement le mode d'action qu'on va suivre. Allah nous dirige vers cette voie-là. On va suivre cette voie-là, Inch'Allah. Et donc, l'une d'elles dit, Donc on va déjà regarder ce passage parce qu'il est super intéressant, cette seule conversation qu'on a perfie ici, et on sait avec la suite, bah, tu as entendu les ayats au début, il sera question de mariage, il sera question de quand même quelque chose ici, et c'est à la suite de cette conversation-là, c'est voilà. Et sachant que la dernière conversation qu'on a eue hier, c'est quand Moussa alayhi salam arrive et qu'il raconte, après avoir été cherché par une des femmes, qu'il raconte à cet homme-là tout son vécu, son qasas. Et donc, cet homme l'accueille, le fait voilà, atterrir, etc. Il l'écoute jusqu'à la fin et il le rassure et lui dit « Voilà, ici tu es sain et sauf, en gros. » Et après, on a cette discussion avec cette femme. C'est comme si, en fait, elle avait pris un peu son père à part et qu'elle lui avait dit « Papa, tu devrais peut-être l'engager, en fait. » Et là, après, on n'a pas la réponse du père à sa fille. On a tout de suite, en fait, la discussion du père qui reprend avec Moussa alayhi salam. C'est assez fascinant comment les scènes ici se déplacent, d'accord ? Comment les scènes bougent les unes avec les autres, avec Allah qui respecte tout à fait notre sens de notre intelligence, ce côté où justement on a besoin de suspense, on a besoin d'être captivé, etc. Si tu regardes bien, il a une manière de nous conter l'histoire qui nous permet en fait de ne pas nous ennuyer, qui justement, ça va tellement vite qu'on se dit « Attends, il manque quelque chose. Attends, mais raconte-moi cette scène-là. Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai besoin de mon écran plat au paradis ?» Parce que toutes ces scènes qui ne sont pas racontées, il faudrait bien un jour qu'on les voit pour de vrai, n'est-ce pas ? Je n'arrête pas avec mon rêve d'écran plat. Et je vois qu'en fait, il y en a beaucoup qui me rejoignent dedans. Vous me contactez beaucoup à ce sujet. Donc, je suis très contente de savoir que mon rêve d'enfant n'est pas si enfantin que ça, machallah. Donc, avant de te parler du vif de ça, de décortiquer là-dedans, j'aimerais te partager en fait une parole de compagnon au sujet de cette scène-là. Donc, Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Qatada et Muhammad bin Ishaq, donc qui sont des compagnons, et d'autres compagnons ont dit au sujet de ce passage. Lorsqu'elle a dit, en vérité, le meilleur des hommes que tu as engagé, c'est celui-ci, le fort et digne de confiance. Son père lui a dit, donc là c'est je raconte ce que les compagnons ont dit, hein, c'est que ces compagnons-là ont dit. Son père lui a dit, après ça, quand elle a dit ça, il lui a dit, que sais-tu de cela ? En gros, que sais-tu que il est fort et digne de confiance ? Elle lui dit, il a soulevé un rocher qui ne pouvait être soulevé que par 10 hommes. Et quand je suis revenue avec lui, donc là on comprend que la femme qui demande à son père d'engager Moussa alayhi salam est la même qui est allée le chercher. D'accord ? Donc elle dit, je continue, quand je suis revenue avec lui, j'ai marché d'abord devant lui. Mais il m'a demandé de marcher derrière lui et que si jamais il ne comprenait pas l'itinéraire, alors que je lui lance un caillou à droite ou à gauche, pour lui dire où aller. Et tu trouveras cette narration-là dans le tafsir de At-Tabari, qui est également une pointure parmi les Mufassiroun, parmi les hommes du tafsir, les gens du tafsir. J'aime beaucoup cette narration-là, parce que du coup, ça nous donne une explication. C'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'avec le tafsir, on a vraiment l'explication des ayats avec les versets du Coran qui s'expliquent les uns les autres. On a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a beaucoup de passages du Coran où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté, en fait, finalement, a éclairci des choses qu'on avait besoin de comprendre. Et on a également, des fois, la parole des compagnons qui ont entendu Rasulullah parler, ou eux-mêmes, en fait, ont compris des choses de ce que Rasulullah nous avait expliqué que nous, on n'aurait peut-être pas eu accès. Donc, parce que ce sont des fins, ces compagnons-là, en tout cas, qui sont experts du Coran, je pense à Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas toujours, hein, qui connaissaient très, 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 très bien les textes. Et ce sont des gens pour qui Rasulullah a fait une doua, justement, spéciale pour cette compréhension-là, quand il dit « Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil ». Donc, il a demandé à ce que Allah les rende érudits dans la jurisprudence, dans le fiqh, et leur apprenne vraiment l'interprétation. Donc, là, on les croit. C'est pour ça que j'aime énormément, énormément ces compagnons en termes d'exégèse du Coran. Ce sont mes compagnons préférés par rapport à ça, parce que c'est toujours, 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 toujours pertinent leur narration. Et donc, ici, on a des éléments par rapport en fait, voilà la conversation qu'elle a avec son père. Donc son père lui a effectivement demandé, qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que t'en sais en fait ? D'accord, tu veux que je l'engage, mais qu'est-ce que tu en sais en fait qu'il est fort et digne de confiance ? Pourquoi tu dis ça ? Et là, elle a décrit, niveau force, il a montré qu'il était fort. Niveau confiance, elle a parlé de ce passage-là. Elle aurait même pu rajouter, bah, quand il est venu nous aider, il ne nous a pas demandé de salaire en échange, il n'a pas cherché à engager la conversation avec nous. Là où il était seul avec moi, quand tu m'as fait confiance pour aller chercher, il était seul avec moi, il aurait pu parler le plus beau temps, il aurait pu me laisser marcher devant lui et il marche derrière moi, il aurait pu voir mes atours, mes formes, il aurait pu me regarder, il aurait pu discuter, il aurait pu faire ce qu'il voulait en fait. Qui m'aurait protégé de lui ? S'il était, entre guillemets, mal intentionné. Bien sûr, là, ce n'est pas le cas. Mais il a été digne de confiance. C'est-à-dire, il n'a vraiment pas trahi ta confiance, toi qui es mon père, alors qu'il ne t'avait pas encore vu. Il a respecté cette amana, en fait. Je suis venue pour le chercher. Eh bien, il s'est arrêté là, il m'a suivi, et même là, pour respecter ma dignité, ma pudeur jusqu'au bout, voilà ce qu'il a fait. Donc là, ça nous renvoie à la description que Rasulullah a fait. Sallallahu alayhi wa sallam a fait de Moussa alayhi wa sallam au sujet de sa pudeur. Il a dit que Moussa alayhi wa sallam était un homme qui était très pudique. Pudique dans sa démarche, dans son comportement et pudique aussi physiquement. C'est quelqu'un qui montrait très peu de son corps. On voyait son visage et tout et il se couvrait complètement en fait, finalement. Il était plus couvert qu'une femme qui porte le hijab aujourd'hui. C'était sa personnalité. Et en plus de ça, Allah nous décrit la démarche de cette femme aussi qui apparemment est aussi pudique que lui sûrement. Et donc Moussa alayhi salam respecte sa personnalité en se comportant comme ça, en ne voulant pas justement la mettre dans la gêne. Et il respecte sa personnalité, sa pudeur à elle. Cette scène, elle est vraiment très belle. Donc, faut en prendre la graine, les femmes, les hommes ici, cette scène-là. Elle est... De toute façon, aujourd'hui, il n'y aura que des leçons pour les femmes dans leur féminité, pour les hommes dans leur masculinité, pour le couple, pour le père, pour... C'est... Non, aujourd'hui, on va se régaler, vraiment. Pour toute la sourate, en vrai, mais là vraiment... Excusez-moi, mais là, c'est un moment pour moi. Là. Je savoure un de mes passages préférés. Il faut me suivre ou pas. Voilà, donc reprenons. Et une autre narration aussi qui est très intéressante, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui le dit. Radiallahu anhu, un compagnon du prophète Sassem, celui pour qui Rasulullah a fait cette doa-là aussi pour la science. Eh bien, il dit, les gens, parmi les gens, ceux qui ont eu le plus de discernement, parmi tous les gens qui ont pu exister dans l'histoire, était au nombre de 3. Abu Bakr, dans son intuition, à propos de Omar ibn Khattab, donc Abu Bakr, le premier calife, après la mort de Rasulullah, quand il a choisi Omar ibn Khattab comme calife, eh bien, il a fait un excellent choix. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, son intuition, donc ça c'est le numéro 1. Le deuxième, le compagnon de Youssouf, quand il dit le compagnon de Youssouf, Sahibu Youssouf, ça veut dire... Là, ici, il fait référence à Al-Aziz, donc celui qui l'a recueilli. Al-Aziz, donc de Youssouf, quand il a dit « Akrimi mathwahu », donc quand il a parlé à sa femme en disant, en gros, mets-le dans de bonnes conditions. D'accord ? Et la suite de la ayah, c'est « Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada ». Donc, il pourrait nous être utile, d'une quelconque façon, ou on pourrait aussi le prendre comme fils adoptif. Et la troisième personne, c'est... donc, il dit « Et la compagne de Moussa... » lorsqu'elle a dit « Oh mon père, engage-le, certes le meilleur de ceux que tu as engagés, c'est celui-ci, le fort et le digne de confiance. » C'est magnifique. C'est-à-dire que dans les 3 personnes où il dit que dans l'histoire, ils ont fait preuve du meilleur discernement, ils ont pris la meilleure décision, il y en a plein hein, bien sûr, mais pour montrer comment ceux-là en fait ont été vraiment, ont été très forts dans leur choix, eh bien ce compagnon a mis en lumière ces 3 personnes-là. Abu Bakr al-Siddiq à propos du choix de Omar ibn Khattab comme calife après lui. Al-Aziz, quand il a dit à la femme, à sa femme, mets-le dans de bonnes conditions, effectivement, il savait qu'il avait quelqu'un de valeur avec lui. Bon, elle l'a pas vraiment respecté, mais en tout cas, il savait ce qu'il disait. Et la femme, l'épouse, donc la compagne, comme il le décrit, la compagne de Moussa alayhi salam, quand elle a dit à son père. Donc c'est très beau en fait qu'on mette en valeur ici la parole d'une fille à son père au sujet en fait du choix de qui employer. Et d'ailleurs, par rapport à cette ayah, avant de passer à la suivante, ça me fait te dire des choses très intéressantes au sujet de cette conversation. Ce qu'on comprend ici aussi, c'est que ce père écoute les conseils de sa fille en matière de travail, en matière d'entreprise, en matière de business. Sur le point de vue professionnel, il prend le conseil de plus petit que lui, de son propre enfant, qui plus est de sa fille. Et il n'a pas honte de le faire. Ensuite, cette femme-là, lorsqu'elle dit « engage-le », elle est lucide en fait. Là, on va prendre la partie vraiment technique. Elle dit quelque chose de logique. On a besoin de quelqu'un pour ce travail. Tu le vois bien en fait, on est obligé d'y aller, ma sœur et moi. Peut-être on sous-entend dans ce qu'elle a dit, parce que c'est conjugué au passé. « Inna khayra man istajarta ». Donc, parmi ceux que tu as déjà employés, donc on comprend qu'il a peut-être déjà dû faire l'expérience de personnes qu'il a employées et ça s'est peut-être sûrement pas bien passé, ou bien il est arrivé quelque chose, la personne, je sais pas moi, elle est décédée, elle a voyagé ou elle travaillait mal, etc. En tout état de cause, en tout cas, là, il n'y a pas d'employé. Donc, elle dit, le meilleur parmi ceux que tu as déjà employés, c'est ça, en fait, c'est celui-ci. Al-Qawi, Al-Amin. Et regarde ici, elle définit, en fait, c'est à la forme définie. On n'a pas dit Qawiyun Aminun. On a dit « El Qawiyu El Amin ». Ça veut dire « le fort » et « le digne de confiance ». Elle aurait pu dire « le meilleur de ceux que tu aurais pu employer, en gros, c'est quelqu'un de fort et quelqu'un de digne de confiance. Un fort et un digne de confiance. » Mais là, elle dit « le », comme pour dire « c'est lui, en fait ». C'est lui ton homme, en fait. C'est lui ton homme demain. Si tu passes à côté de lui, en gros, tu n'es même pas sûr de retrouver la même perle rare, quoi. Et tu as besoin d'un bras droit, papa. Et regarde ici comment elle parle. Elle dit « Ya Abati ». C'est exactement la même façon dont Youssouf a.s. a parlé avec son père quand il dit « Ya Abati inni ra'aytu ». Donc « Ya Abati », on l'avait défini, hein, c'est vraiment, c'est pas seulement « père », c'est pas « papa », c'est « oh mon bien-aimé père ». D'accord ? Sinon elle aurait dit « Ya Abi ». Mais là elle a dit « Ya Abati ». C'est un cran supérieur. On sent dans cette formulation qu'il y a un amour entre les deux, qu'il y a une bienveillance entre les deux, qu'il y a de l'affection, du respect mutuel entre les deux. D'accord ? Donc, regarde comment elle parle à son père. Là, limite, dans ce passage, j'ai envie de dire « Ah, elle peut être sympa, elle, quand elle parle. Elle peut être aimante et affectueuse quand elle parle. » Parce que jusqu'à présent, quand on entendait les filles, en tout cas, parler avec Moussa alayhi salam, ces femmes-là, c'était très direct. Hein. C'était vraiment, voilà, on ne se mélange pas ces hommes. On attend qu'ils terminent d'abreuver leur bête. Et puis, de toute façon, notre père est âgé, est très âgé. Et puis après, la deuxième fois qu'on entend l'une d'elles parler, c'est « Mon père t'appelle pour te récompenser pour ce que tu as abreuvé pour nous. » C'est tout, on n'a pas d'autres paroles. Il n'y a même pas « Ya Moussa », il n'y a pas « Oh homme », il n'y a pas mon frère, mon cher frère, « Oh homme courageux, oh toi voyageur, oh toi étranger ». C'est juste la phrase, c'est-à-dire elle ne le nomme même pas. Il n'y a pas de « Hey toi » ou quoi, mais c'est juste « Est-ce que tu imagines quelqu'un qui vient parler à une autre personne et qui dit « Mon père t'appelle ». Il n'y a pas « Salam, ça va ?»« Oui, bah c'était moi qui étais là tout à l'heure, au fait, au sujet de la scène de tout à l'heure, cher homme, cher frère. » Non, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment « straight ». Ça va direct, droit au but. C'est pas nonchalant. Elle a juste montré, en fait, sa personnalité. Et d'un autre côté, elle s'adresse à un homme qui n'est pas son mahram, etc. Elle se protège jusqu'au bout et elle montre ici aussi qu'elle se respecte. Donc, c'est sa personnalité. On l'apprécie comme ça. On admire et là, on commence à voir en fait la femme au contact de son père. Donc, on a une partie de sa personnalité qui se révèle. Elle est à l'aise avec son père. Elle aime son père. Il aime aussi sa fille vu qu'il suit son conseil, etc. Là, on commence en fait à s'attacher à ce personnage et à juste titre parce qu'en plus, elle va être la femme de notre héros. Donc, voilà, on apprécie. Donc, voilà, donc elle ouvre les yeux à son père en disant « bah, on a besoin de quelqu'un, papa, on a besoin d'un bras droit. » Et imagine en plus si tu l'emploies, bah, même vis-à-vis des autres, les autres verront en fait que personne ne va essayer de nous tourner autour. On aura même, enfin, quand on sait que dans une maison, il y a un homme, il y a quelqu'un qui travaille ici, etc. et tout, qui a demeure, en plus il a nulle part où aller, etc. Donc ça veut dire que là où il va travailler, c'est sûrement là où il va vivre. On va lui mettre, voilà, il va avoir ses appartements ici. Bref, en tout cas, tu auras un homme de main. Il y aura quelqu'un pour prendre soin de ta maison, de tout ce qui est autour et tout, de ton travail. Quelque part, pour nous aussi, c'est un peu un bouclier. C'est comme un gardien aussi qui va nous servir. Donc là, quand tu entends ça, petit à petit, tu te dis « Ouais, un homme étranger qui vit dans la maison, qui n'est pas marié à ces femmes-là. Ouais, quand même. Hein. » Et avant de passer au sous-entendu de cette demande-là, il y a aussi quelque chose de très bien ici. Il y a un bon conseil professionnel, commercial, voilà, du point de vue entreprise, du point de vue entrepreneuriat, d'employeur, etc. Là, cette femme-là nous donne une belle leçon. Elle nous donne un bon outil pour employer la meilleure personne. deux critères à rechercher qui sont très importants chez quelqu'un qui doit travailler pour toi. C'est quelqu'un qui est fort, donc compétent dans son domaine, d'accord ? Ici, c'était la force physique en l'occurrence, mais fort, d'accord ? Qui est vraiment compétent, et quelqu'un qui est digne de confiance. Parce qu'il y a, il y a plein de gens compétents hein, sur Terre, il y en a plein. Mais une personne compétente, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un digne de confiance. Il y a des personnes, bah, elles mentent, elles volent, elles trichent, elles nous laissent tomber dans les galères, mais ça n'empêche pas qu'elles sont compétentes. Et il faut pas seulement quelqu'un digne de confiance, il faut quelqu'un aussi qui sache faire le travail. Donc en gros, ce qu'elle est en train de nous enseigner à nous qui écoutons, si vous passez à côté de quelqu'un en fait, si vous croisez quelqu'un qui combine ces deux qualités-là, faut pas faire le capricieux en fait. Faut prendre. Peut-être que cette opportunité-là ne se représentera pas. Donc on apprend de belles choses à travers cette femme-là, de très très belles leçons. Maintenant, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala parle d'elle aussi. Il dit « قَالَتْ إِحْدَاهُمَا » L'une d'elles. Donc on comprend, l'une d'elles, il parle des deux femmes, il a déjà parlé des deux femmes. Il reprend encore depuis le début, d'accord ? Quand il dit « إِمْرَأَتَيْنِ » quand il parlait à côté du point d'eau, deux femmes. Depuis, à chaque fois, il ne va plus les renommer comme deux femmes, il va dire soit elles ont parlé, quand elles ont parlé à Moussa, d'une même voix en disant « on ne va pas s'approcher de ces hommes-là, notre père est âgé ». Après, à chaque fois qu'il va parler d'elles, il va dire « l'une d'elles ». Sous-entendu, vous qui écoutez, vous qui lisez Al-Qasas, vous savez de qui je parle. Vous savez que je parle d'une de ces femmes-là qui était à côté du puits, c'est les mêmes depuis le début, il n'y en a pas de nouvelles. Mais regarde, il ne nous a pas dit laquelle des deux c'était. On n'arrive pas à savoir est-ce que la femme qui est partie chercher Moussa alayhi salam suite à la demande de son père pour qu'il puisse le récompenser, on ne sait pas si c'est la même femme qui s'est mariée avec Moussa alayhi salam. On pourrait dire, bah si, c'est logique, mais non. C'est pas forcément logique, ça aurait pu être la sœur, en fait, qui parle pour sa sœur, par exemple. Ça aurait pu être une des sœurs qui dit à son père, mais engage-le. Et sous-entendu, ce serait bien, en fait, que tu le maries à ma sœur. D'accord ? Ça aurait pu être aussi l'inverse. Celle qui est partie chercher Moussa alayhi salam, qui a vu aussi les qualités de Moussa alayhi salam, qui dit à son père, engage-le à son service, qui se retrouve être aussi celle qui va l'épouser. On n'a pas ces informations-là. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, nous, on va se tenir à ce qu'Allah nous a demandé. On va respecter, en fait, finalement, le choix d'Allah de ne pas nous avoir donné ces détails-là. Et tu vas voir que c'est très, très beau ici. Allah protège sa dignité. Il a décrit cette femme comme étant une femme qui marche avec pudeur, avec élégance, avec confiance, qui est digne. Eh bien, Allah est cohérent dans le Coran. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, s'il décrit cette qualité chez elle, il la respecte aussi. Donc par respect pour sa dignité, alors qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'on sache que c'est qui. Mais tu vas voir la subtilité en fait. Il ne décline pas son identité. Il ne dit pas c'est laquelle des deux. Parce qu'on aurait pu se dire, ah oui, non, c'est celle qui est partie le chercher. Ah bah oui, sur le trajet, ils ont dû discuter, ou bien elle l'a vu, elle l'a regardé, parce que c'est elle qui était derrière Moussa alayhi salam, elle l'a regardé, etc. Et après elle a dit à son père, ouais, j'ai envie de me marier avec lui, etc. Ou sous-entendu, bien sûr. Non, en fait, on ne peut pas deviner. Allah nous a écarté la possibilité d'avoir la certitude de c'est elle ou c'est pas elle. Déjà parce que l'information n'est pas utile par rapport aux leçons qu'on doit apprendre. Et ensuite, c'est pour nous enseigner aussi une leçon. Là, c'est une belle méditation ici, c'est respecter la dignité des gens. N'essayez pas de savoir. Respectez la pudeur des gens. Il n'y a pas besoin de connaître toutes les informations. Surtout ici, où c'est plus sensible, on va dire. Et ce qu'on retient aussi, ici, je pense que tu as commencé à le deviner. En plus, j'avais déjà évoqué ça dans un épisode. Hein. Donc, ce passage, je l'aime tellement. Donc, forcément, j'en ai parlé à un moment donné. C'est sûr que j'aurais dû en parler soit dans ma lettre du vendredi, ma newsletter du vendredi. Je me rappelle avoir déjà parlé de ça, de cette demande en mariage si élégante et si subtile. J'en ai déjà parlé aussi dans un épisode de podcast. Je vais te mettre un épisode de podcast à réécouter dans les notes de l'épisode. Et c'était dans Ramadan naissance et ça s'appelle Le premier homme de sa vie. Et ça parle de ce passage-là. Donc, très très belle référence, donc il ne faut pas hésiter en tout cas à revoir ça. Et donc, pareil, un autre épisode que tu seras amené à réécouter, c'est l'épisode Le vrai but du mariage, où je parle justement du fait de chercher la paix dans le mariage, une des choses en fait qui est utile de chercher dans un mariage, et c'est la définition de la paix. Elle a vu cette femme-là qui parle, en tout cas, en Moussa alayhi salam, ce qu'elle recherchait en termes de paix, en termes de sakina. Peut-être que sa définition à elle de la Sakina, c'était un homme pieux, un homme digne de confiance, un homme fort, un homme grand. Physiquement, peut-être qu'elle a trouvé en Moussa alayhi salam tout ce qui l'attirait de manière standard chez un homme. Tout le monde a des attirances en particulier, des goûts en particulier. Peut-être que, justement, elle a beaucoup apprécié la pudeur de Moussa alayhi salam, son côté réservé, le fait qu'il était respectueux envers les femmes, le fait qu'il savait se maîtriser, qu'il savait maîtriser sa force, sa colère. Il ne s'est pas emporté devant ces hommes-là. Il s'est maîtrisé aussi devant elle. Le côté gentleman aussi, son éducation, ses bonnes manières. Et là, on a envie de dire merci à sa maman Asiya d'avoir inculqué ça en Moussa alayhi salam, d'en avoir fait un prince, mashallah, avec ses belles manières. C'était quelqu'un de distingué, c'était quelqu'un de visiblement humble aussi. Ce n'était pas quelqu'un qui avait la flemme ou qui était paresseux, parce que là, ça montre qu'il ne l'est vraiment pas. Après le long voyage qu'il a fait, la fatigue, il est sous l'ombre d'un arbre, il voit des femmes, il se lève, il va aller quand même les aider physiquement, alors qu'il aurait pu se dire « ça ne me regarde pas, je ne connais pas cette ville, je ne connais pas ce pays ». Faut pas que je commence à me mêler de ce qui me regarde pas. Il aurait pu réagir comme ça. Mais non, en fait. Donc il s'est levé. Donc c'est quelqu'un qui aime travailler, c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui en veut, qui est persévérant. C'est quelqu'un, du coup, qui aime servir les autres, donc il saura être au service de sa famille. C'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, il a fait passer le bien-être de ces femmes-là avant sa propre fatigue. C'est quelqu'un qui a été courageux aussi, parce qu'il a osé aller leur parler, ne serait-ce que pour demander « c'est quoi votre problème, vous avez besoin de quoi ?» Et voilà. Donc, voilà comment cette femme-là, finalement, a rapidement dit à son père pourquoi est-ce qu'il devait engager Moussa alayhi salam et les sous-entendus, où elle a dit subtilement à son père, là, tu commences à comprendre, elle a subtilement dit à son père, peut-être à son sujet ou au sujet de sa sœur, Allahu a'lam, mais en tout cas, pour l'une ou l'autre, il y a une des deux, en tout cas, pour qui Moussa alayhi salam a vraiment fait de l'effet, qui était vraiment attirée par Moussa alayhi salam pour toutes ses qualités morales et aussi physiques, et qui a eu le courage de le dire à son père. Après, tu me diras, elle le dit à son père, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a compris. Eh bien, la ayah d'après nous montre qu'il a compris. Et tu noteras aussi que El-Amin, qu'elle définit Moussa alayhi salam avec cet attribut-là, est aussi un des surnoms qu'on donnait au prophète alayhi salam, El-Amin. On l'appelait El-Amin, d'accord ? Avant qu'il soit prophète, c'est le surnom que les gens lui donnaient parce qu'il était digne de confiance. Il était reconnu comme ça à la Mecque. Et donc c'est un beau clin d'œil aussi à Rasulullah sallallahu alayhi salam, pour qui finalement le récit Al-Qasas a été révélé en premier, comme pour lui dire, tu vois, ton frère Moussa et toi, vous avez été repérés par la femme de votre vie pour la même belle qualité. Votre côté digne de confiance, en tout cas au moins. Et donc la ayah suivante, la ayah 27, nous montre en fait que le papa a très bien compris le sous-entendu de sa fille. Il a très bien compris que sa fille lui disait subtilement et avec beaucoup d'élégance, « Papa, j'ai trouvé l'homme qui me suffit, j'ai trouvé l'homme que je veux épouser. » Et tu peux l'engager à ton service par la même occasion. En fait, c'est vraiment une phrase qui combine plein de choses. En l'engageant à son service, comme elle le sous-entend ici, ça va répondre à plein de besoins, aussi bien pour elle, pour son père, pour sa sœur, pour sa famille et pour Moussa alayhi salam aussi en premier, quoi. Donc c'est vraiment le truc qui remplit les réservoirs de tout le monde. Et donc le père, et c'est ça qui est beau, c'est que la scène, elle va tout de suite là-bas. Il n'y a pas le côté où il répond à sa fille, ah, oh, ah oui, et on fait ça quand ? Ou bien, t'es sûr ? Ou, ah, d'accord, j'ai compris. Il n'y a même pas tout ça, en fait. On n'a pas la réponse du père à sa fille. On a tout de suite le père qui négocie et qui parle avec Moussa, alayhi salam. Donc, cette scène-là qui saute, d'accord ? Ici, si tu regardais une vidéo, il y aurait un flou de passage avec un autre passage, ou bien il pourrait y avoir un aparté, le père qui commence à parler à Moussa alayhi salam en disant « Vas-y, t'es en sécurité maintenant. » Et puis après, il y a un aparté avec la fille qui dit « En fait, papa, tu devrais peut-être l'engager à ton service, etc. Et » Et après, on change directement de scène sur une autre pièce, le père qui est de nouveau assis avec Moussa alayhi salam après une petite pause, ou bien qui dit « Voilà, je reviens te voir, j'aimerais te proposer quelque chose, qu'est-ce que tu en dis ?» Comme si finalement la décision venait du père, alors qu'en fait le père n'a fait que être le transmetteur finalement de la demande de sa fille. Et même ici en disant, donc là, regarde, Allah respecte la dignité de cette femme, le père respecte la dignité de sa fille. Il aurait pu dire, parce que c'est ce qu'il a compris, il aurait pu restituer et dire, ma fille aimerait que tu sois son mari. Non, même là, en fait, il protège la dignité de sa fille vis-à-vis de Moussa alayhi salam. Donc il dit, je voudrais te marier à l'une de mes filles que voici. Donc là, Moussa alayhi salam, bon, bien entendu, il va finir par savoir c'est laquelle fille, laquelle des deux quand même que le père veut lui donner en mariage. Donc finalement, seul Moussa alayhi salam, cette femme, sa sœur, il n'y a que eux en fait, et le père, il n'y a que eux qui sauront jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que nous on ait l'information au paradis, Inch'Allah, il n'y a que eux qui seront au courant de laquelle des deux femmes a dit quoi, a demandé quoi, laquelle est venue chercher Moussa alayhi salam, son nom, qui voulait se marier avec Moussa alayhi salam des deux et qui a conversé avec son père. Il n'y a que eux qui le savent, et c'est très bien comme ça. Et là aussi, c'est une belle leçon pour nous que tout n'a pas besoin d'être connu. Il y a des choses qui doivent rester en famille pour la dignité, le respect de tout le monde. Et parce qu'en fait, les gens, quand ils ont une information et qu'ils n'ont pas forcément tout le tableau ou qu'ils n'étaient pas là, c'est facile d'interpréter, c'est facile de juger. Des personnes, en fait, pourraient juger selon leurs stéréotypes, selon leurs préjugés, selon leur culture. Ah, mais ça se fait pas dans notre culture. Ils diront même pas dans notre culture. Ça se fait pas pour une femme de demander en mariage à un homme, mais vous imaginez, mais c'est grave, etc. Il y a des cultures où peut-être ça se fait pas. Ici, tu vas voir que dans ce passage-là, Allah, il est vraiment, il se positionne comme celui qui pulvérise tellement de tabous, mais tellement de tabous. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode-là, tout le monde comprendra, en tout cas tous ceux qui l'auront écouté comprendront que faut qu'on arrête, hein. Qu'on arrête avec les tabous. Fallait déjà qu'on arrête avec tout ce qui est stéréotypes, préjugés. Faut qu'on arrête avec le fait de juger les gens sur leurs sentiments et de dire à quelqu'un, par exemple, « Oh, t'es triste, tawakkul ala Allah, tu connais, ta foi en Allah, elle n'est pas assez forte. » Oui, va dire ça à la mère de Moussa alayhi salam. Va dire ça à Yaqub alayhi salam, qui a perdu la vue à force de pleurer. Va lui dire qu'il n'a pas tawakkul ala Allah. Va lui dire qu'il ne croit pas Allah. Va lui dire que son iman est manquant et qu'il doit un peu plus craindre Allah et se soumettre à lui. Cette sourate vient casser beaucoup de tabous. Au-delà d'être une merveilleuse histoire, elle vient briser beaucoup de tabous. Elle vient remettre beaucoup de points sur des i, beaucoup de barres sur des t, tout en étant élégant, tout en étant très belle à écouter comme histoire. Et là, le passage qu'il y a ici, c'est un des passages... Si tu cherches le côté romantique en termes de famille, etc., romantique dans le sens très sain du terme, hein, bien sûr, hein, eh bien là, tu as un passage qui te sert tout à fait dans ce domaine et il faut le lire en tant que tel. Et donc ici, le fait qu'on ne sache pas laquelle des filles a demandé et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce père-là parle pour lui-même, en fait, dit « Je voudrais te marier à une de mes filles. » C'est moi, en fait, qui te fais la demande. Il ne parle pas pour sa fille, là. Il ne transmet pas une demande de sa fille à Moussa alayhi salam. Il parle de lui. « Moi, père, voilà, j'aimerais te marier à une de mes filles. » Et il émet un souhait, hein. On sent dans ce qu'il dit qu'il ne contraint pas sa fille et il ne contraint pas Moussa alayhi salam. Bon, nous, on sait qu'il ne contraint pas sa fille, que c'est plutôt elle qui a dû se dire « Bon, papa, j'espère que papa a compris ma demande et qu'il va faire le job, hein, d'accord ?» Donc, ici, c'est un très, très beau conseil qu'Allah glisse un petit peu, vraiment en sous-marin, au père, aux familles. À savoir que personne n'a besoin de savoir que c'est ta fille qui a voulu se marier en premier à cet homme. Même cet homme n'a pas besoin de savoir au départ que la demande en réalité elle a été initiée par une femme. C'est pas tabou si c'est le cas, mais encore une fois, la personnalité d'une femme et d'un homme n'est pas pareille. Le haya, l'istihya, la pudeur naturelle qui est chez une femme est pas exactement la même qu'un homme. Et ça, ce n'est pas un tabou. Allah respecte la personnalité, respecte la nature innée qu'il a mis, lui, chez une femme. C'est lui qui a fait d'elle qu'elle a cette pudeur naturelle. Donc jusqu'au bout, en fait, il la protège par rapport à ça, il lui donne les outils, en fait, pour pouvoir driver ça. Et ici, on assiste aussi à un autre exemple d'un homme qawwam avec les femmes. On a le cas d'un homme qawwam avec sa femme. On a le cas d'un homme qawwam avec sa famille, avec les femmes d'une autre famille, les femmes de la société, comme Moussa alayhi salam. Et là, on a le cas, ici, d'un homme avec sa fille. Et ici, c'est la seule femme de sa famille, à lui, cet homme, qui le regarde comme le premier homme de sa vie. Et ici, on apprend comment le premier homme de la vie d'une jeune femme peut aider justement cette femme qui est sa fille bien-aimée, a trouvé le père de ses futurs enfants à elle. Donc, à trouver le père qui va être un jour, lui, le premier homme dans la vie de ses filles, si elle en a plus tard. Est-ce que tu vois la subtilité ? Et ici, ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre Coran terrasse par un gros, gros chaos technique, un tabou qu'il y a dans nos cultures. En fait, quand t'es parent, il faut que tu te dises que ton métier de parent, quand tu deviens parent, à partir du moment où tu deviens parent, c'est de prendre soin de ton enfant. Depuis qu'il est petit, jusqu'à ce qu'il vole de ses propres ailes. Et tu dois donc tout lui donner pour qu'il soit lui aussi compétent un jour pour pouvoir prendre soin de ses propres enfants. En l'occurrence, tes petits-enfants un jour. Et à quel point tu aimes tes petits-enfants ? Tu les aimes au point de mettre des bâtons dans les roues à ta fille quand elle essaie de te faire savoir qu'elle a trouvé quelqu'un de bien ? Ou qu'elle trouvera quelqu'un de bien si ta fille, que si tu sois un homme ou une femme, que ta fille... Ah oui, parce que des fois, c'est les femmes qui sont virulentes, hein, des fois, c'est même pas les papas. Mais que ta fille, un jour, est intéressée par quelqu'un, elle a le courage de te le faire savoir. Et donc, qu'est-ce que ça te coûte, en fait, d'étudier le cas ? Dans tous les cas, tu apprendras quelque chose. Si ça se passe ou que ça se passe pas, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas forcément apprendre dans cette histoire ce que ta fille aime vraiment chez quelqu'un, ce que ta fille ne veut absolument pas chez quelqu'un. Tu vas apprendre également sa manière de voir les hommes, la vision qu'elle a des hommes. Est-ce que la vision qu'elle a des hommes est saine ? Est-ce qu'elle a peur d'eux ? Est-ce qu'elle leur fait confiance ? Est-ce que, quand je dis elle leur fait confiance, pas à ces hommes-là en particulier, mais à l'homme, au masculin en tant que tel. Tu apprends tout ça en fait de ta fille dans le process de pourparler du mariage. Donc que ça se passe ou que ça se passe pas, tu apprends des choses. Parce qu'il y a des choses de notre enfant qu'on apprendra que quand la situation se présente. Comment tu vas savoir comment ton enfant gère un stress, par exemple le stress d'un examen, s'il a jamais été confronté à ça ? Comment tu sais comment ton enfant réagit lorsqu'il est en conflit avec quelqu'un, si tu l'as pas vu en conflit avec quelqu'un qui n'est pas ni son frère ni sa sœur, quand c'est quelqu'un étranger à la maison ? Et comment, en fait, tu vas savoir comment ton enfant se débrouille dans des pourparlers pour un mariage si tu ne vois pas ton enfant à l'œuvre, en fait ? Donc, en fait, en tant que père, en tant que mère aussi, en tant que parent, tu ne perds absolument rien, en fait, à faire suivre une affaire, à donner une suite, en fait, à une demande, à un besoin de ta fille, surtout ta fille ici, parce que là, c'est ça qui est en lumière ici, c'est la fille, d'accord ? Mais tu peux aussi, ça c'est quelque chose qu'un enseignant m'avait dit, pour compléter ça, il avait dit, mais par contre, un père, en fait, ou une mère, il peut perdre sa fille tout en la gardant injustement à côté de lui, en fait. Parce que peut-être qu'elle va rester à côté de lui, peut-être qu'il a refusé, en fait, qu'elle se marie avec un homme de son choix, qui était quelqu'un de bien, en plus, on parle vraiment de quelqu'un de bien. Ou bien il lui a dit non, mais arbitrairement, même si c'était pas quelqu'un de bien pour elle, mais sans qu'elle puisse savoir pourquoi. Et bien effectivement, elle va rester à côté de son père jusqu'à peut-être trouver quelqu'un du choix de son père ou du choix de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et en attendant, en fait, il perd une partie de sa fille, au moins sur le point de vue émotionnel. Et ça, ça coûte plus cher. Hein. Donc vraiment, facilitons le mariage de nos enfants, de nos jeunes autour de nous. Comme dans Sourate Nour, « Wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum ». Donc facilitez, mariez les jeunes parmi vous, les pieux parmi vous. Arrêtez en fait de mettre des bâtons dans les roues aux gens, surtout si leur choix porte sur des gens bien. Cet homme pieux a vu Moussa alayhi salam, il a vu chez Moussa alayhi salam ce qu'Allah lui a montré. Il a vu un homme salih, un homme pieux, un homme fort, digne de confiance, avec de bonnes manières, qui sait se remettre en question. Dans la manière dont il raconte Al-Qasas, il n'a pas hésité à dire qu'il avait tué un homme, il n'a pas caché la vérité. C'est un homme courageux qu'il a vu, un homme pudique, un homme beau aussi, pour dire les choses, appelons un chat, tous les prophètes étaient des hommes extrêmement beaux. Il a vu aussi chez Moussa alayhi salam un qawwam, tout simplement. Donc il n'a pas retenu de son physique sa couleur de peau qui était peut-être différente de la sienne, parce qu'ils n'étaient pas du tout de la même région, de la même tribu. Il n'a pas retenu de lui qu'il a grandi dans la même maison qu'un tyran, ou bien qu'il a tué un homme, ou bien qu'il a fui sa sentence, parce que quelqu'un qui est recherché pour mort, il fuit en fait un verdict qui n'était pas encore tombé, mais il s'en va. Il n'a pas vu de lui qu'il n'avait pas de travail, qu'il n'avait pas de maison, qu'il n'avait pas de famille avec lui, avec qui négocier, d'accord ? Il n'a pas regardé les biens matériels de Moussa, alayhi salam. Il a plutôt vu Moussa, alayhi salam, comme le bien, comme le khayr lui-même. En fait, il a vu Moussa, alayhi salam, comme le diamant. Il n'a pas regardé ce que Moussa alayhissalam avait dans ses mains, un diamant, matériellement. Il a vu Moussa alayhissalam comme le diamant. Moussa alayhissalam allait devenir son gendre, son homme de main. Son fils aussi, quelque part. C'est comme un fils, hein, un gendre. Son confident, quelqu'un avec qui il va pouvoir parler. Des discussions d'homme à homme qu'il va enfin pouvoir avoir. Celui qui lui permettra aussi d'avoir des petits-enfants, parce que sa fille va enfin avoir un époux. Et plus tard, il ne le sait pas, en fait, il va être au contact d'un futur prophète. Un adversaire qui va être un grand adversaire de taille plus tard pour Pharaon. Quelqu'un qui va sauver tout un peuple de l'esclavage. Un héritier digne d'Ibrahim alayhi salam. C'est ça qui l'a fait entrer dans sa maison, en fait, en l'engageant à son service et en le faisant rentrer dans sa famille. Et tout ça, si tu regardes bien aussi, c'est un très très beau clin d'œil au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son mariage avec Khadija radiallahu anha. Elle aussi a vu les qualités de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle a envoyé son amie. Elle n'est pas allée directement. Elle aussi, en fait, il y avait un rapport de travail entre eux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam travaillait à son service, tout comme Moussa alayhi wa sallam va travailler au service de cet homme. Et regarde, c'est comme si on disait « Regarde, Mohammed ». C'est comme si Allah disait « Regarde, Mohammed, ton frère Moussa et toi, vous vous ressemblez tellement jusqu'à même vos process de mariage sont finalement les mêmes. » Khadija, radiallahu anha, a été la stabilité même pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cette femme va l'être pour Moussa, alayhi salam. Et on sait que Moussa, au moment là où il se trouve, ce qu'il a besoin, c'est de stabilité après tout ça. Et regarde, est-ce que tu commences à voir pourquoi est-ce que la doua de Moussa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, que je t'ai dit d'apprendre par cœur hier, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi c'est parmi mes douas préférés? Regarde ce que ça lui a offert jusqu'à présent. Regarde ce que ça commence même à lui offrir. Donc en fait, Moussa alayhi salam, il avait à la fois ici, il avait de quoi donner une dot, s'il travaille pour cet homme, et un salaire en même temps. Parce que on a l'impression, en fait c'est marrant parce que en l'employant à son service, on pourrait avoir l'impression qu'il rend service à Moussa alayhi salam parce qu'il va le payer en fait pour le travail qu'il fait. Et en même temps, Moussa alayhi salam lui rend service en fait à cet homme parce qu'il a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu vois comment c'est vraiment des échanges de bons procédés? Donc il va avoir la dot, le salaire en même temps, il va être hébergé. Donc là, ça doit, on a compris qu'elle marchait. Hein. Il faut l'utiliser. La doua de Moussa alayhi salam marche. Au cas où tu n'avais pas compris, ça marche. Et donc, il a eu un toit, il a eu une partenaire de vie qui est pieuse, un beau-père bienveillant, qui est lui aussi un père, qui va être un père aussi pour lui, qui va être un employeur, qui est correct, qui est juste, d'accord? Il le dit, tu vas certes me trouver, si Allah le veut, parmi les gens de bien, je ne vais pas t'exploiter. Je sais que tu es très fort physiquement, que tu fais le travail de 10 hommes, mais pour autant, je ne vais pas t'exploiter au-delà du travail d'une personne. Ne t'inquiète pas. Donc pareil, il a gagné aussi une belle sœur pieuse, comment dire, un contrat de mariage et un contrat de travail qui est juste, une stabilité, une liberté, du respect. Il aura une occupation aussi la journée. C'est une vraie thérapie aussi pour lui tout ça. Lui qui est passé quand même par pas mal de... Voilà, il est passé par beaucoup d'épreuves. Hein, donc là, ça lui permet de se détendre et d'atterrir en fait. C'est une consolation aussi parce qu'il est loin de sa famille. Il a plus en fait ses deux mamans à côté de lui en fait, qui étaient quelque part ses piliers et ses rocs. Et c'est son grand frère Haroun alayhi salam, sa sœur aussi très intelligente, mashallah, sa grande sœur qui a participé aussi à lui sauver la vie. Donc Moussa alayhi salam ici, il a tous les ingrédients pour reprendre confiance, pour reprendre de l'estime, pour reprendre de la force au point moral. Et enfin, la ayah 28, très très belle ayah aussi, où Moussa alayhi salam répond. Et donc on a la réponse de Moussa alayhi salam où il dit « Ok, c'est conclu entre toi et moi. D'accord ?»« Dhalika bayni wa baynik. » Donc ceci, tout ce qu'on s'est dit là, c'est entre toi et moi. C'est d'accord, entre guillemets. Et après il dit « Quel que soit celui des deux termes, donc que ce soit 8 ans ou que ce soit 10 ans, l'un ou l'autre en fait de ce que tu m'as proposé, eh bien, quel que soit celui que je vais choisir, ça sous-entend que je vais prendre le temps de choisir, j'accepte le contrat, mais pour en tout cas la durée, c'est moi qui choisis. Et quels que soient les deux que je choisis, j'aurai pas de pression, hein. Tu ne me mets pas de pression. Il n'y aura pas de pression sur moi. Là, il le dit en tout bien, tout honneur, hein, d'accord? Et Allah est garant de ce que nous disons. Ici, Moussa alayhi salam, il est en train de dire, c'est ok entre toi et moi. J'accepte le mariage, j'accepte le montant de la dot, j'accepte ce poste. Il a dû aussi, après mûre réflexion, parce que ça aussi c'est quelque chose qui sous-entend ici, il a dû voir aussi en elle, très rapidement, très succinctement, très intelligemment, sa définition de la paix. Elle est pieuse, elle m'attire physiquement, elle est pudique, on se ressemble sur ce point, elle est digne, elle est courageuse, cette femme. Elle est débrouillarde, franchement, il faut quand même du courage pour accepter de prendre le travail comme ça qu'un homme aurait dû faire, soulager son père. Maintenant que je suis là, elle aurait pu à faire ça, mais je sais que c'est une femme en fait qui est prête à prendre le lead et le relais en fait. S'il se passe quelque chose, si demain je ne suis plus là, elle est seule avec les enfants, je sais que cette femme-là ne souffrira pas en tout cas de mon absence, dans le sens... Elle sait s'occuper en fait. Elle est compétente. Et ça, c'est très important chez une femme aussi. Ce n'est pas parce que ceci ou cela est le rôle de l'homme que en fait, moi, ça m'intéresse pas ce que tu fais. Je n'apprends pas à faire ce que tu sais faire. Ça m'intéresse pas. Non. En fait, dans un couple, les deux en fait doivent être intéressés par ce que l'autre fait. Ne serait-ce que pour pouvoir prendre l'intérim quand il y a besoin. C'est très important. On est une équipe. On n'est pas ton poste, mon poste. Personne, en fait, ne franchit la frontière de l'autre. Tu restes dans ton pays, je reste dans mon pays, dans le sens voilà, figuré du terme. Non, en fait, c'est important que les deux regardent les rôles les uns des autres. Et donc, elle est franche aussi. Elle dit ce qu'elle veut, en fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et les hommes, vous pourrez témoigner, les hommes aiment les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui ne sont pas là à dire « oui, non, il faut que je devine tout le temps ce qu'elle veut, etc. » Elle, quand elle veut quelque chose, elle le dit. Ça m'arrange. J'aime pas trop parler, j'aime pas blablater pendant 100 ans. Et elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est intelligente, ça se voit. Elle l'a montré. Elle est instruite aussi. Parce qu'avoir un père comme ça, et avoir les compétences qu'elle a, et comment elle conseille son père, etc., c'est quelqu'un qui est compétent, hein, d'accord ? Elle a appris pas mal de choses. Elle est bien éduquée. Elle est aimée, elle est choyée de son père. Et ça, c'est très important aussi pour un homme. Sur le point de vue affectif, elle n'a pas de manque affectif, etc. C'est quelqu'un qui sera équilibré aussi. C'est plus facile avec une femme comme ça. Et c'est quelqu'un aussi, par-dessus tout, qui accepte Moussa al-Islam tel qu'il est. Qui ne le regarde pas comme un fugitif. Qui ne le regarde pas comme un criminel, parce qu'il a tué quelqu'un. Qui ne le regarde pas aussi comme quelqu'un qui a été dans la même maison que Pharaon. Donc, il a peut-être pris des comportements de ce pharaon dont on entend parler, parce que les contrées à côté, ils entendent, hein, tout le monde est au courant en fait de la réputation de Pharaon, ça le suit partout. Donc ça voyage. Donc non, en fait, elle, ni préjugés, ni stéréotypes, non. Tawakkul Allah, et je prends la personne telle qu'elle est. Je prends ce que je vois, ce qu'elle m'a montré. Et Moussa alayhi salam a été dans des situations où il ne pouvait pas faire semblant que ce qu'il était en fait. Donc en fait, il a montré sa valeur juste par ces faits-là. Et donc, c'est tout ça en fait que Moussa alayhi salam pense au moment où il dit « j'accepte en fait, j'accepte, je choisis, on ne m'a pas contraint, hein. Je suis d'accord en fait, je veux me marier moi aussi avec cette femme-là ». Et pareil, quand il dit « tout restera entre nous », tout ce qu'on s'est dit là, ça va rester entre nous. Pareil, c'est comme s'il disait aussi « je serai un homme bon pour ta fille, je serai un bon employé, protecteur, un gardien aussi pour ta maison, je respecterai le contrat ». Donc, c'est moi qui choisis est-ce que je fais 8 ou 10 ans, mais je ne vais pas aller en dessous de 8 ans. Parce que, attention, c'est quand même une dot ici, d'accord ? Il y en a qui acceptent, etc., la dot, ils se marient avec la personne, et il y a des femmes, malheureusement, des sœurs, 20 ans plus tard, elles n'ont toujours pas vu la couleur de la dot. Donc là, Moussa alayhi salam, il bénéficie, il donne une partie de la dot, donc, parce qu'il va commencer à travailler tout de suite, et en même temps, il n'attend pas que d'avoir versé la dot en entier, quand même 8 ans minimum, avant de pouvoir bénéficier de la compagnie de cette épouse, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment un accord qui est très équilibré. C'est trop beau ce qui se passe là. Et donc, il dit, il respectera minimum. Il ira minimum jusqu'à 8 ans. Et il ne partira pas avant. Et donc, c'est comme s'il lui disait, tu as raison de me faire confiance. T'inquiète pas, on va célébrer le mariage, je vais me marier. Mais c'est pas dès que je me marie, genre au bout de 4 ans, c'est bon, allez, on s'en va. Non, 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 non. Ou bien j'arrête de travailler pour ton père. Non, non, non. Tu peux être sûr que j'irai jusqu'aux 8 ans. Et si je choisis 8, tu ne me blâmeras pas. Hein. Si je choisis 8 et après je m'en vais, tu diras pas, tu peux pas rajouter 2 ans de plus ou un truc comme ça. Dès qu'on te dit 8, tu prends 8, tu pars. Non. Et de la même façon, si je décide de choisir le 10 ans, faut pas que tu te dises au bout de 8 ans, bon, c'est bon, j'ai envie d'être tranquille maintenant. Bon, ça m'étonnerait que le père dise ça, mais tu n'auras pas de droit de regard, en fait, sur mon choix de 8 ou de 10. C'est moi qui choisis, en fait, si je fais 8 ou si j'attends 10. Et après les 10 aussi, je décide de partir, de voyager, de retourner en Égypte ou autre, ou voilà, de voler, entre guillemets, de mes propres ailes avec ma famille, tu ne vas pas m'imposer quelque chose, d'accord ? Je deviens responsable de mon foyer après. Donc Moussa, alayhi salam, si tu regardes bien, il est digne, en fait. Lui aussi, il dit ce qu'il veut. C'est vraiment un accord d'égal à égal, d'accord ? Je suis digne. C'est vrai que, c'est comme s'il se dit, c'est vrai que je suis dans le besoin là actuellement, mais je me respecte quand même en fait. Je connais ma valeur, je sais aussi que tu as besoin de moi. Et de la même façon, toi aussi tu te respectes et tu respectes ta fille. Chacun a quelque chose à donner, chacun peut recevoir aussi quelque chose. En restant une équipe, ici tout le monde est gagnant. Et à la fin, on rapporte tout à Allah. Wallahu ala man aqul wakil. C'est-à-dire, à la fin c'est Allah qui décide. C'est Allah aussi qui est témoin, c'est à lui qu'on se remet. Donc, wakil, tawakkul, et ça tombe bien parce que le tawakkul, c'est vraiment une valeur très, très prépondérante dans cette sourate, Al-Qasas. Donc, Allah, c'est lui, en fait, qui est garant ici. C'est lui qui gère. C'est-à-dire que moi, je peux te donner mon accord. Toi, tu me donnes ton accord, mais moi, je peux mourir entre-temps. Je peux ne pas aller au bout de ces 8 ans. Et ce sera pas de mon plein gré. Il peut tout se passer, en fait. La maladie, la mort, plein de choses. Moi, je donne mon accord. Toi, tu donnes ton accord. Mais c'est Allah qui est aux commandes à la fin. Moi, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir, et toi aussi. Et je ne sais pas, en fait, finalement, si Moussa, alayhi salam, aura fait 8 ans ou 10 ans, parce que dans la ayah qu'on verra demain, on dit juste, et quand Moussa a fait le temps, Allah ne précise pas 8 ou 10, et là aussi, je trouve ça très beau qu'il ne le précise pas, que ce soit 8 ou 10. Je crois qu'il y a des narrations qui disent que c'est plutôt 10. La plupart des narrations disent 10, mais on n'a pas... En tout cas, Allah ne nous a pas donné clairement est-ce que c'est 8 ou 10. Là aussi, je trouve ça très beau. Parce que s'il avait dit que Moussa alayhi salam a finalement choisi 8 ans, eh bien, ça pourrait être une règle en fait, pour les hommes ou les beaux-pères de dire « Ah, mais le mieux, c'est de choisir le plus court des deux, c'est 8 ans. » D'accord ? C'est bon, la dot 8 ans, c'est beaucoup déjà. Et s'il avait choisi 10, les gens auraient pu dire « Ah non, le mieux, c'est de choisir le délai le plus long. » Et comme Allah subhanahu wa ta'ala veut laisser à chacun en fait, le choix, tant que chacun en fait, est content, il ne nous a pas donné cette information-là pour qu'on ne soit pas contraint de choisir l'un ou l'autre. Là aussi, ce sont des sagesses d'Allah dans le Coran, des sagesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des choses aussi qu'il choisit de ne pas nous dire ou de choisir de ne pas faire devant les gens, exprès parce que si les gens voyaient Rasulallah dire ou faire quelque chose, ils le prendraient comme argent comptant et personne n'oserait faire différemment, alors que c'est quelque chose qui normalement devrait être laissé au choix de quelqu'un. Si Rasulallah avait imposé en disant que c'est ça qu'il faut faire, moi c'est ça que je fais, moi c'est ça que j'aime manger, moi je fais ici, comme ça, comme ça, comme ça, pour des choses en fait où c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas hein, dans un sens, eh bien les gens se sentiraient contraints de faire pareil ou bien les autres vont contraindre d'autres personnes en disant oh, Rasulallah il a fait ça, tu fais ça absolument, d'accord ? Non. Donc Allah laisse le choix. Mais ce que je trouve beau, dans le cas par exemple où il aurait fait 10 ans, admettons, est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se diriger vers Médine. Et à Médine, il a passé 10 ans là-bas. Donc 10 ans de la révélation, 10 ans jusqu'à sa mort à Médine. Et après, il est revenu à Mecca. Et je trouve ça magnifique en fait que la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 10 ans. Enfin, son temps à Médine, hein, parce qu'en réalité, il est revenu à Mecca, mais après, il est retourné à Médine. Mais je trouve ça beau que la période, en tout cas médinoise, ait duré 10 ans. Et possiblement aussi la période de Hijra de Moussa alayhi salam a duré aussi 10 ans. Voilà, cette coïncidence, je la trouve assez belle. Et tu noteras que c'est le seul endroit du Coran où il y a un contrat de mariage qui est clairement négocié ici. Ici, on a une négociation de contrat de mariage. Et donc, pour le seul passage où on parle d'un contrat de mariage qui est négocié, eh bien, Allah choisit de nous partager la discussion entre l'homme qui veut se marier et le père de la fille qui veut se marier. Il n'a pas choisi la discussion entre le marié, le futur marié et la future mariée. Parce que aussi, à un moment donné, ils discutent quand même pour se mettre d'accord. Il aurait pu capturer ça, parce que ce sont des discussions qu'il doit y avoir. Sûrement, Moussa alayhi salam, il a discuté avec elle aussi, parce qu'il faut quand même se parler à un moment donné. Il n'a pas capturé la discussion de la femme avec sa mère. En gros, les discussions qu'elle n'ose pas avoir avec son père, ou bien les négociations, la salle, le truc, quel montant de dot tu lui demandes, etc. Il n'a pas capturé la discussion de l'homme avec son meilleur ami à lui. Ouais, qu'est-ce que tu penses, etc. Non. Il n'a pas capturé la discussion de cette femme avec sa sœur aussi. Allah a partager la discussion entre le marié, le futur marié, et son futur beau-père. Il a subtilement partagé aussi le souhait de cette femme de se marier, pour bien montrer en fait qu'elle n'a pas été contrainte et que ça a été son choix à elle. Parce qu'imagine juste qu'il n'y aurait pas eu ce passage-là. Ça aurait pu être complet, on aurait pu comprendre que le père il a discuté avec sa fille par exemple, mais ça n'aurait pas été clair. Donc Allah parle de ça parce que cette scène elle est très importante. Mais pour autant il la lance subtilement, sans vraiment nous dire « elle a dit à son père je veux me marier avec lui ». Sans pour autant capturer le père qui dit « ah d'accord tu veux te marier avec lui, ok tu vas te marier avec lui ». Sans que le père dise aussi « ma fille veut se marier avec toi ». Ok d'accord j'accepte de me marier avec elle comme elle le veut. Il n'y a pas ça, il n'y a que de l'élégance. Que de l'élégance, mashallah. Et donc, Allah a choisi de consigner ici, parce que c'est la discussion la plus importante pour nous, après celle du père avec sa fille, c'est celle des deux personnes qui sont indispensables pour qu'un mariage ait lieu. L'homme qui veut se marier et l'homme qui est le protecteur, le qawwam, le premier qawwam de la femme qui va se marier. Parce que c'est ces deux-là, à la fin, en fait, qui font le contrat. Il y a plusieurs sagesses dans ce passage. Déjà, le fait que c'est très important pour nous, musulmans, parents et aussi enfants, pour ceux qui veulent se marier, par exemple, qui sont sur le pas de se marier, il faut impliquer assez tôt le mahram. Les hommes, soyez aussi courageux, soyez sérieux. On ne s'éternise pas dans les pourparlers et dans les discussions avec la fille d'autrui sans que son père, son frère, son oncle soient au courant et donnent son accord. Et les pères, soyez à l'écoute de vos enfants et aidez-les. Demandez à connaître l'heureux élu dans le cœur de votre fille, par exemple. Demandez en fait à jouer le jeu en fait. Ok, tu vois que ta fille, elle est intéressée par quelqu'un. Ils ont rien fait de mal. Ils discutent sainement. L'homme commence à s'approcher de toi, etc. Mais facilite la tâche. Si tu commences déjà à entendre ta fille qui a le courage de venir te dire « Écoute, il y a quelqu'un que j'ai vu, etc. Je ne suis pas encore très sûre de mon choix, etc. Mais j'ai vu ça, il est dans mon association, ou je l'ai vu ici, ou bien il est dans mon école, ou je ne sais pas. » Et elle a le courage de venir parler avec son père parce qu'ils ont une relation saine, etc. Le père qui est intelligent, il joue le jeu. Ah d'accord, il va dire « Tu sais où est-ce qu'il aime manger, dans quelle mosquée il aime prier, où il travaille, etc. » Comme ça, je vais juste aller voir de moi-même, en fait. Qu'est-ce que ça vous coûte, les hommes ? Il faut faire preuve de créativité. Si, en fait, il faut se mettre à la place de cet homme-là. Le jour où vous vouliez vous marier avec quelqu'un, vous avez fait la croix et la bannière pour vous marier. Vous avez essayé d'investiguer sur cette femme-là. Vous avez approché son frère, vous avez approché ses amis, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé d'apparaître vraiment sous votre meilleur jour auprès du père. Imaginez si on vous avait mis des bâtons dans les roues comme ça. Donc, jouez le jeu, en fait. Montrez à ce jeune, allez, vas-y, moi aussi, je suis passée par là. Allez, je te facilite la tâche. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Ça va vous coûter quoi ? Donc, les pères, soyez à l'écoute de vos enfants. Et faciliter la tâche. C'est très important. Le mariage est un édifice tellement important dans notre société aujourd'hui que si on rend les choses difficiles à la racine, il ne faut pas s'étonner après d'avoir des enfants qui sont brisés, qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'estime en eux, qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui vont se marier avec des gens après qui sont toxiques, qui ne leur correspondent absolument pas, ou bien qui vont être en dépendance affective, des femmes qui sont avec des hommes qui sont eux-mêmes brisés, etc. Aujourd'hui, ce qui se crée, ce qui se voit dans notre société, surtout musulmane, c'est désolant en fait. C'est désolant et en fait, si on regarde bien, dans notre haine, il y avait la formule. Il y avait tous les conseils. Il y avait vraiment le mode d'emploi. Pour en fait avoir une famille équilibrée et saine. Des enfants sains qui eux aussi sauront bien choisir qui prendre. Là, on a vraiment le prémisse. Sourate Al-Qasas, elle vient raconter la base de beaucoup de choses. Elle vient raconter le début de la vie de Moussa alayhi salam qu'on a nulle part dans le Coran en détail. Et cette partie-là de sa vie aussi, son contact avec certaines femmes de sa famille, son mariage, tu verras ce passage nulle part dans le Coran. Sa petite enfance comme ça, tu le verras pas non plus. L'entourage féminin qu'il y a autour du prophète Moussa alayhi salam et qui lui a servi dans sa formation de prophète, c'est dans Sourate Al-Qasas qu'il faut apprendre. Comme un élève studieux, il faut noter ici. Ici, je ne ferai pas l'affront au Coran de dire que ça c'est une masterclass, que ce terme-là il est tellement employé aujourd'hui, mais là tu as une formation premium, VIP, à elle toute seule, sur la vie dans ce passage-là, dans cette sourate. Et ce passage, si on passe à côté quand on lit Sourate Al-Qasas, C'est vraiment dommage. Et une autre sagesse, et je vais finir par ça, c'est, parce que c'est important de le dire, parce que c'est quelque chose qu'Allah met en lumière ici aussi, subtilement, c'est le tabou qu'il y a autour de la dot. Est-ce qu'on en parle, ça ? La dot, en fait, ici, il le présente comme une simple discussion. Il n'en fait pas, il en fait pas toute une affaire. Ici, c'est une discussion très, très, très simple qu'il fait. Moussa, alayhi salam, il ne se sent pas exploité, il ne se sent pas rincé, comme si on essayait de lui aspirer son argent et ses biens quand la dot est évoquée. Aujourd'hui, malheureusement, que ce soit père, futur mari, gendre, etc., et même les femmes, dès qu'on parle de la dot, tout le monde stresse, tout le monde est tendu. La femme va demander un montant, quel que soit le montant qu'elle va demander, elle va tout de suite passer pour une vénale ou bien pour une personne qui, une profiteuse, etc., alors que c'est son droit absolu, la dot. Si quelqu'un te demande une dot, tu es capable de la donner, tant mieux, tu n'es pas capable de la donner, tant pis, soit tu trouves une solution, soit tu laisses tomber. Et de la même façon, ce qui est bien aussi, c'est que la femme n'a pas à courir derrière une dot, en fait, pour l'avoir après le mariage. Comme ici, Moussa alayhi salam respecte vraiment les termes du contrat. Et pour les femmes aussi, parce qu'on ne parle pas que des hommes, hein. Nous on dit qu'on dit la vérité. Moi je mets les femmes et les hommes dans le même panier en termes de responsabilité, dans le sens où il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Hein. Là, vous ne trouverez jamais en train de prendre le parti pour les femmes ou prendre le parti pour les hommes. Parce qu'Allah ne le fait pas, alors je ne le fais pas. Pour les femmes, c'est pareil, demander des dots raisonnables, mais dignes. C'est ça qui est important, mais dignes. C'est très important. Une dot décente. Et la dot, c'est pas forcément de l'argent. Là, par exemple, Moussa alayhi salam, c'était bien plus que de l'argent. Là, sa dot, c'était, c'est un salaire, c'est un toit. Enfin, là, ce qu'il donne, pardon, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt le fait qu'il donne ses services, sa protection, le fait que voilà, la maison est en sécurité, le travail, le temps qu'il donne, etc. Tout ça, toute cette sécurité en fait qu'il donne finalement. C'est son rôle de qawwam qu'il met sur la table. D'accord ? Et ce qu'il en tire finalement dépasse même ce qu'il donne. Donc là, cette dot-là nous apprend en fait que celui qui donne la dot, il donne, en fait, il est en train de se verser une baraka à lui-même en fait. C'est quoi cette façon en fait de fuir les montants de dot, de demander la plus faible possible ? Ça, c'est pas l'islam en fait. C'est pas l'islam. Et c'est pas l'islam aussi lorsqu'une femme donne un montant de dot sur lequel elle est satisfaite à un homme, il ne lui appartient pas de le négocier. Tu peux pas, c'est autre chose. Mais on n'a pas à remettre en question les paroles d'une femme. Et aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, que ce soit voilà, des gens voilà, influents, etc., il y a tout un truc, toute une moquerie, toute une trend, etc., autour de la dot. Faut arrêter. Hein. Ce passage-là nous montre que c'est du cinéma et que c'est des grosses bêtises en fait, de perdre son temps sur ça. Les vraies questions qu'on doit se poser, c'est celles qui sont dans Sourate Qasas ici, dans ce passage. En fait. C'est ça la vérité. Tout le reste, en fait, arrêtons de perdre notre temps. On perd du temps. On perd du temps pendant que des mariages se délitent et c'était pas la dot le problème. Hein. D'accord ? Donc, parlons des choses sérieuses. On est grand maintenant. On est en 2024. C'est quand même dommage que des siècles après ce passage-là, si Moussa alayhi salam nous voyait aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier de nous, en fait, et des discussions futiles qu'on a autour du mariage et de la dot ? C'est quand même dommage, alors que tout est clair. Donc, il faut se respecter. Faut respecter tout le monde. Et tout ça, ça va avec tawakkul ala Allah, ça va avec le fait d'être entier, d'être authentique, d'être sincère. Si je crains Allah, si j'ai envie de satisfaire Allah et de le rendre fier, eh bien je sais ce que j'ai à faire. Et c'est tout ce que ce passage nous enseigne. Il était long ce passage. Je suis très contente d'avoir partagé avec toi un de mes passages préférés du Coran. J'espère en tout cas que toi, il te plaît aussi beaucoup. Et ça, c'est à transmettre. C'est à transmettre autour de soi. C'est à partager aussi en famille. C'est à partager aux gens qui veulent se marier. C'est à partager aux gens qui sont déjà mariés. C'est à partager aux gens qui veulent se remarier. C'est à partager aussi aux gens qui ne veulent pas se marier. C'est des leçons de vie ici. Ce sont vraiment des pépites vivantes qui sont dans le Coran. Et est-ce que tu commences à comprendre quand le Coran dit « لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ » Donc nous avons révélé un livre dans lequel il y a votre histoire. Ça, c'est notre histoire. D'accord ? C'est notre vie. Là, on a l'impression que c'est 2024 hein, qui est dans ce passage, dans cette sourate de manière générale. Il faut prendre, il faut noter. Ça n'a pas été révélé qu'à Rasulallah. Ça lui a été révélé pour lui donner des forces. Ça nous a peut-être aussi été révélé, nous, en tout cas transmis par Rasulallah, pour qu'on se réveille, pour qu'on réapprenne en fait, et pour qu'on arrête de perdre du temps. C'est très important. Alors la suite de l'histoire de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille? Est-ce qu'il est retourné en Égypte ou pas? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui est devenu ce délai? Eh bien, on verra ça demain, inshallah. Salam alaikum.